Merci beaucoup, professeur Cahier, de cette nouvelle invitation. Je suis toujours très heureuse de venir parler dans ce cadre et bien sûr en particulier de l'éthique du care. C'est vrai que lorsque j'ai accepté sa gentille proposition il y a bien des mois, hein, j'ai dit oui tout de suite. Jamais je n'imaginais que le care serait objet de discussion, de proposition par le PS et susciterait tous ces débats. Hein. C'est vrai que j'ai pas mal travaillé avec donc deux collègues, notamment Patricia Paperman, qui est sociologue, et Pascal Molinier, qui est psychologue, à faire connaître en effet la problématique du care. Mais c'est vrai que nous sommes un peu perplexes devant l'utilisation qui en est faite actuellement sous une forme qui non seulement est peut-être un peu simplifiée, mais qui du coup peut conduire à déconsidérer tout un travail théorique qui a eu lieu depuis des années, notamment aux États-Unis, et qu'on a essayé de faire connaître. Hein. Donc mon but au départ était, disons, essentiellement théorique, hein, de faire connaître tout un champ de la réflexion qui me semble central. Donc je vais d'abord parler de cela, et ensuite on va évidemment discuter des implications éventuellement politique de cette réflexion sur le care. Alors maintenant, ce mot care, en effet, il faut déjà s'y attacher. Hein, vous reconnaissiez qu'il est peut-être intraduisible. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives de traduction et qu'on a parlé, par exemple, de sollicitude ou de soins. Hein, et surtout, on nous a d'emblée accusé. Alors maintenant, c'est moins le cas parce que le terme circule un peu plus, mais évidemment, on pouvait très bien être accusé d'une forme de snobisme, d'employer un terme anglais, alors que, en définitive, il n'y a pas de terme qui soit vraiment complètement intraduisible. Donc, pourquoi est-ce que on tient à garder ce mot de care, même si ça fait un petit peu bizarre, je le reconnais, surtout au début, quand j'en parlais à la radio, ça faisait, là, les gens disaient ce que c'est, le Caire, en Égypte, etc. Maintenant, au moins, ça n'est, grâce à Martine Aubry, ça n'est plus le cas. Mais si on parle donc de Caire et pas, par exemple, de soins ou de sollicitude, c'est parce que ce mot anglais est en effet le seul qui permet de rendre compte en fait de toutes ces dimensions du care. Alors comme vous le disiez, le care au départ, c'est simplement l'idée de s'occuper d'autrui, hein, pourvoir à ses besoins. C'est une notion extrêmement simple. C'est vrai que en anglais, il y a tout un dispositif autour de ce terme parce qu'on va parler de care fort, ou alors de take care. Donc, il y a vraiment l'activité de s'occuper de quelqu'un, mais elle est indissociable aussi donc de care about, hein, de se soucier d'eux. Hein. Donc, c'est pas seulement s'occuper, mais c'est aussi le concernement, donc se soucier des autres. Donc, c'est le titre d'un des ouvrages aussi que nous avons consacré à l'éthique du care, hein, le souci des autres. Donc, c'est peut-être ça la meilleure traduction, mais elle est un peu, c'est un peu long, quoi, comme expression. Et surtout, donc, si on prend les notions encore anglaises de care, eh bien, c'est à la fois, hein, ensemble, donc, une activité et une attitude, une attention à autrui. Il n'y a pas vraiment de terme en français qui permette, en fait, de rendre compte de cette double dimension. C'est-à-dire que si on dit sollicitude, c'est vrai que c'est plutôt une attitude morale. Si on parle de soins, c'est plus directement une pratique. Et surtout, si on parle de soins, c'est assez vite en fait orienté vers la question d'un soin qui serait un soin médical. Alors, c'est un domaine extrêmement important, hein, dans le domaine du care, mais ça n'est pas le seul champ concerné par le care, puisque le care concerne en fait vraiment les activités de chacun tous les jours. Hein. Qu'est-ce que c'est que s'occuper de quelqu'un donc chacun est en fait doit faire face à ce genre de préoccupations. Chacun, ou alors, enfin, c'est très rare que, en tout cas, ce ne soit pas le cas. Chacun a pensé à s'occuper d'un parent, d'un enfant, d'un ami. Hein. C'est vraiment non seulement les préoccupations qui sont au cœur de la vie quotidienne de chacun de plus en plus, mais c'est aussi des questions qui sont au cœur des conversations, très souvent aussi des conflits, hein, des conflits entre personnes, des conflits intérieurs, parce que finalement on choisit souvent en fait aussi de s'occuper d'une personne au lieu d'une autre, etc. Et ce sont des choix moraux qui traversent en fait notre vie quotidienne. Donc l'intérêt pour l'éthique du care, c'est un intérêt qui traduit des préoccupations qui sont les nôtres. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est intriqué dans la vie quotidienne de chacun. Donc c'est la première chose que, bien sûr, je voulais évoquer. Et c'est pour ça donc que le mot care, donc, bien qu'il paraisse parfois un peu sophistiqué, est vraiment le seul qui permet de rendre compte de la complexité du réseau, du vocabulaire, de l'activité pratique, prenant en charge les dimensions de proximité, de singularité, d'engagement personnel constitutif de la relation de care. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Une manière de traduire peut-être le terme, ça serait plutôt l'attention, mais au sens où une attention, c'est aussi faire des attentions, hein, c'est-à-dire que c'est aussi faire quelque chose, c'est pas seulement donc faire attention, mais en même temps l'idée de l'attention est vraiment centrale parce que c'est vraiment en prenant autrui en considération, hein, en faisant attention à ce qu'il est et à ses caractéristiques que l'on peut réellement en fait envisager une relation de care. Alors voilà pour la définition. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut paraître un peu général, et c'est pour cette raison que peut-être l'idée a été utilisée, élargie, voire récupérée au plan politique, hein, puisque on a essayé d'en faire une espèce de valeur morale générale, d'être gentil avec son voisin, et donc toutes sortes de pratiques qui vont être valorisées comme une morale de proximité. Hein. Donc c'est un petit peu cela qui a été retenu de l'éthique du care. Et donc je crois que là il y a vraiment peut-être un malentendu. Bien sûr, le care suggère une attention nouvelle à des détails inexplorés de la vie, à des éléments qui sont négligés. Donc ça, c'est très important. C'est vrai que tout ce qui est activité de care, enfin, s'occuper de quelqu'un, bon, par exemple, s'occuper d'un enfant, faire le ménage, des activités comme celle-là, sont des activités qui, de fait, ne sont pas valorisées ni dans la société. Ça, vous le savez, il y a beaucoup de discours là-dessus, mais ni non plus dans la théorie, dans la pensée morale. Hein, quand on essaye de donner des exemples d'actions, hein, dans les cours de philosophie morale, par exemple, si vous en avez eu, dans philosophie tout court, c'est vrai qu'on va toujours parler de, je sais pas, César qui franchit le Rubicon ou lâcher la bombe d'Hiroshima, hein, comme action, et on va pas dire... donc maman qui descend la poubelle, c'est pourtant bon, c'est une action aussi, mais on va jamais donner ces exemples parce qu'ils relèvent d'activités qui effectivement sont des valeurs, voilà, sont pas considérées comme intéressantes. Combien de collègues qui veulent dire qu'ils sont mal payés disent je veux pas être traité comme une femme de ménage, par exemple. Enfin, c'est des réflexes qu'il y a constamment. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une telle dévalorisation? C'est cela, en fait, qu'il y a eu d'emblée dans la réflexion sur le care. Hein. Donc, il y a eu d'emblée, en fait, une dimension politique, mais c'est une dimension qui s'interrogeait sur les raisons de cette dévalorisation. Hein. C'est pas du tout simplement de dire le care, c'est bien, il faut s'occuper de ses voisins. Il y a vraiment une interrogation politique. Et donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est dans un premier temps, donc vous expliquez un peu d'où est venue cette interrogation, c'est-à-dire vraiment l'origine politique et philosophique de la réflexion sur le care, hein, qui va vous expliquer aussi pourquoi le terme est en anglais. Et ensuite, on va parler un petit peu du passage de l'éthique au politique, donc dans la réflexion sur le CAIR. Alors, l'histoire du CAIR, alors elle est décrite dans plusieurs textes très, d'ailleurs récents, hein, qu'on a récemment redécouvert. Même si bien sûr la réflexion morale sur l'attention à autrui, c'est quelque chose qui peut être considéré comme très ancien, hein, depuis qu'on réfléchit sur la sensibilité, l'opposition entre le rationnel et la sensibilité, c'est vrai que l'éthique du CAIR a vraiment émergé dans un cadre très particulier, hein, donc on ne peut pas en parler de façon très générale, hein. Comme on le fait aujourd'hui, parce qu'elle a émergé dans les années 1980 aux États-Unis et dans le cadre de la réflexion féministe. Donc c'est une éthique qui a une origine, féministe. Alors, c'est ce qui fait tout son intérêt, mais c'est ce qui fait aussi donc qu'elle a été très vite critiquée, puisque évidemment à cause du contexte féministe. On a eu l'impression qu'on promouvait une sorte d'éthique en tant qu'éthique des femmes, hein, éthique féminine. Et bien sûr, c'est une idée très intéressante, mais c'est bien sûr une idée qui peut être considérée comme inquiétante ou dangereuse. Alors, la grande héroïne du CAIR, elle s'appelle Carol Gilligan. Alors, c'est une psychologue, en fait, au départ. Hein. C'est pas du tout une philosophe, c'est quelqu'un qui faisait de la psychologie sociale. Il y a un livre qui vient de sortir qui lui a été consacré, donc vous pouvez voir sa photo. Hein. C'est une dame très, très bien qui enseigne à l'Université de New York maintenant, qui a occupé une des premières chaires, la toute première chaire en fait de Women's Studies aux États-Unis. Et elle a écrit un livre en 1982. Qui s'appelait « In a different voice », donc « D'une voix différente », alors qui vient de reparaître en français sous le titre « Une voix différente ». C'est intéressant parce qu'il avait été traduit presque immédiatement en français en 1986, cet ouvrage, sous le titre « Une si grande différence ». Et en fait, ça avait fait un flop total parce que en France, quand on parle de différence, c'est méchant, c'est anti-républicain, etc. Donc, ça a été, voilà, ça avait été un échec total et donc on l'a réédité récemment. Mais c'est vrai que le titre n'était pas sur la différence, mais c'était l'idée d'une voix, V-O-I-X, hein, d'une voix différente. Hein, donc, que les femmes auraient une voix morale différente. Alors, pourquoi est-ce qu'il avait été traduit tout de suite et certainement peut-être de façon prématurée en français, c'est parce que ça a été un livre aux États-Unis qui a été un choc très important et c'est certainement l'ouvrage le plus connu de ce qu'on appelle la seconde vague du féminisme. Hein. C'est un ouvrage qui a été extrêmement lu et qui contenait une thèse en fait assez révolutionnaire et très discutée. Alors, pour comprendre cette thèse, ça n'est pas très compliqué. Je vous rappelle que Carol Gilligan était psychologue. Elle travaillait en fait avec un très grand psychologue américain qui s'appelle Lawrence Kohlberg, qui était un disciple de Piaget, qui a écrit une énorme série d'ouvrages sur le développement moral chez l'enfant, et qui expliquait avec toutes sortes d'enquêtes et vraiment d'argumentation à l'appui. Que les femmes avaient un développement moral, en fait, différent de celui des hommes, mais inférieur. Hein. Alors, inférieur, parce que les petites filles, en fait, atteignaient beaucoup moins vite le stade qu'on appellerait en philosophie kantien, hein, du développement moral, à savoir l'idée d'une règle de la morale comme règle universelle qui devrait être appliquée indépendamment des circonstances et des cas particuliers. Donc, il y a tout un travail chez Kohlberg qui est d'ailleurs très intéressant avec toutes sortes d'enquêtes, de questionnaires chez les petits garçons et les petites filles. Et donc, Kohlberg concluait en fait à l'infériorité morale des femmes parce qu'elles étaient incapables, enfin ça allait au niveau des premiers stades, mais elles étaient incapables d'arriver à un niveau de généralité morale suffisante, c'est-à-dire au niveau donc de l'impartialité, hein, du jugement moral. impartiale. Alors, en fait, Caroline Ligan travaillait avec Holberg, et tout ce qu'elle a fait, c'est donc de reprendre les mêmes enquêtes, hein, de réaliser aussi elle-même ses propres enquêtes, et donc d'interroger des petits garçons et des petites filles, en fait, à l'âge crucial dont parle Holberg, donc à 11 ans. Et là, elle en a tiré, alors c'est du matériel empirique, hein, extrêmement, extrêmement sérieux, hein, très très, donc très très vaste, hein, qui est présenté. C'est un petit livre, mais il y a beaucoup de matériel extrêmement, extrêmement intéressant. Et donc, ce qu'elle montre en reprenant les questionnaires avec les petits garçons et les petites filles, eh bien, c'est que de fait, ça n'est pas que les filles aient un développement moral inférieur, hein, mais c'est qu'elles promeuvent un type de morale un peu différent et qui n'est pas du tout compris en fait de ceux qui les qui les interrogent. Et donc, à partir de cela, Carol Gilligan met en évidence deux styles de morale, hein, celui qui serait plus orienté vers la justice et l'impartialité, et puis un autre type de morale qui serait plus orienté vers le care et qui serait plus, en tout cas majoritairement adopté par les filles, mais pas entièrement, hein. C'est-à-dire que il y a en fait des garçons qui évidemment vont réagir aussi comme les filles. Alors l'exemple le plus connu qu'elle donne dans ses questions, donc c'est elle interroge un petit garçon qui s'appelle Jake et une petite fille qui s'appelle Amy. Alors c'est intéressant parce que quand vous lisez ce livre de Carol Gilligan, vous lisez beaucoup des réponses de cette petite fille Amy, qui dans les enquêtes de Holberg est considérée comme racontant n'importe quoi, étant assez confuse, etc. Et en réalité, on s'attache beaucoup à la voix morale de cette petite fille, en fait. En 11 ans, c'est pas un petit, mais en 2-7. Et elle élabore vraiment quelque chose donc d'extrêmement intéressant. Et on a vraiment intérêt à lire ce qu'elle dit. Alors l'idée, l'exemple principal, il y en a beaucoup, hein, mais l'exemple principal dans l'enquête, c'est on présente aux enfants, donc un garçon, à Jake et à Amy, l'histoire suivante. Il y a Heinz, donc c'est l'exemple de Heinz. Pourquoi il s'appelle Heinz? C'est parce qu'il est probablement, il est d'origine étrangère aux États-Unis, ce qui est pas toujours agréable, sincèrement. Et donc sa femme, il vit dans un pays étranger, sa femme est malade, le pharmacien dispose d'un médicament qui peut la sauver, sinon elle va mourir, mais Heinz n'a pas l'argent nécessaire pour acheter le médicament, et le pharmacien, bien sûr, très méchant, refuse de lui offrir. Donc la question qu'on pose, c'est Heinz doit-il voler le médicament? Alors Jake, le petit garçon donc de 11 ans, alors rassurez-vous, les deux enfants réagissent de façon très, très généreuse, hein. L'un et l'autre, bien sûr, le petit garçon dit que Heinz doit voler le médicament, mais ce qui est important, c'est son argumentation. Il va dire la priorité, c'est de sauver sa femme, donc il a le droit de voler, hein. Il y a une légitimité donc à le faire, et donc s'il se fait prendre, eh bien le juge comprendra et lui imposera une sentence plus légère, puisqu'il est d'une certaine façon dans son droit, hein, donc c'est assez logique. Mais la réponse d'Amy est un peu différente. Elle dit, je ne pense pas qu'il doit voler le médicament, puisqu'il y a certainement d'autres moyens de s'en sortir sans avoir à voler le médicament. Il pourrait essayer d'emprunter de l'argent ou de parler au pharmacien, mais il ne devrait pas voler et sa femme ne devrait pas mourir non plus. Donc le psychologue là qui lit cette réponse dit, bon ben la pauvre fille doit aller dans la contradiction, hein, complète. Alors Amy fait aussi remarquer que si Heinz va en prison pour ce vol, grâce à la sentence légère, sa femme sera tout autant démunie si elle retombe malade par la suite. Et donc elle dit, ils ne devraient pas voler le médicament, ils doivent discuter tous les deux et trouver les moyens de réunir les fonds nécessaires ou de convaincre le pharmacien. Alors, je pense que là, vous voyez bien, en fait, la différence entre deux types d'éthique, hein, qui sont très respectables tous les deux, hein. Il n'y a pas de hiérarchie hein, pour moi. Alors qu'évidemment, dans la morale classique, il y a une hiérarchie, évidemment, entre la morale du petit garçon et celle de la petite fille. Hein. Donc les réponses illustrent respectivement les perspectives de l'éthique de la justice et de l'éthique du care. Hein. C'est pour ça, en fait, qu'on a tendance à parler, dans ces années-là, d'un débat entre justice et care, c'est-à-dire que la réponse de Jake s'inscrit dans le cadre du système de Kolmer qui situe le raisonnement déductif au sommet de l'échelle de maturité intellectuelle et morale. Donc, Jake perçoit une structure cognitive interne du dilemme. Donc, il y a la vie d'un côté, le droit de propriété de l'autre. On va choisir entre les deux. Hein, on choisit entre les deux. Et donc, évidemment, la vie a une priorité logique, donc il va argumenter là-dessus pour justifier le vol et ensuite justifier le recours à la clémence du juge. Alors que le jugement moral de Amy, donc c'est ce qu'écrit Carol Lilligan ici, est fondé sur l'attention à toutes les données du problème. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème juste théorique, hein. Est-ce qu'il faut voler un médicament pour sauver quelqu'un? Bien sûr, hein, la réponse a l'air évidente, mais ce que met en œuvre le jugement moral d'Amy, comme le dit Gilligan, c'est l'attention à tout le contexte, hein, et surtout la conviction que si une personne possède quelque chose capable de sauver la vie d'une autre, elle aurait tort de ne pas lui donner. Hein, donc y a cette idée-là, c'est-à-dire qu'Amy situe l'origine du problème au niveau du refus de la part du pharmacien de répondre aux besoins immédiats d'autrui. Hein, elle va dire que ce n'est pas normal que quelqu'un ne veuille pas aider l'autre. Hein, elle ne va pas argumenter au niveau des droits, du droit de propriété, du droit à la vie, etc. Hein, donc finalement, elle ne perçoit pas cela comme une sorte de dilemme et de choix, hein, mais comme une nécessité d'envisager tout ce qui se passe dans la situation. Je cite Carol Gilligan, toujours cet ouvrage. Elle conçoit donc le problème comme une narration de rapports humains dont les effets se prolongent dans le temps. Sa vision du monde est constituée de relations humaines qui se tissent et dont la trame forme un tout cohérent et non pas d'individus isolés et indépendants dont les rapports sont régis par des systèmes de règles. Les deux enfants reconnaissent la nécessité d'un accord, mais lui pense y parvenir de façon impersonnelle par les intermédiaires de la logique et de la loi, tandis qu'elle peut y parvenir de façon personnelle grâce à la communication dans les rapports humains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la vision de Kolberg, hein, dans le système de la hiérarchie morale, et dans la vision classique de la philosophie morale, si vous regardez la conception de l'éthique qu'il y a dans la plupart des manuels de philosophie morale, eh bien, la pensée d'Amy est moins morale que celle de Jake. Elle est même, certains pourraient considérer que c'est juste pas morale du tout, même, hein, que bon, elle dit juste son sentiment. Hein. Et donc, pourquoi? Parce qu'elle ne s'intéresse pas aux actions dans l'abstrait, mais à leur contexte et à la préservation de la vie. Et la question, c'est pas de justifier ce qu'on fait. Hein. Alors, vous voyez, du point de vue de Jake, même s'il dit qu'il faut voler les médicaments, la question va être de justifier cela, de dire j'ai bien fait. Alors que du point de vue d'Amy, du point de vue de beaucoup de gens qui promeuvent l'éthique du care, le problème n'est pas de montrer qu'on a bien fait. Hein. Le problème est d'agir, hein, et de faire passer l'intérêt des autres avant le sien. Et la question centrale, c'est plutôt le conflit, hein, les conflits entre les responsabilités que l'on a envers soi-même et donc envers autrui. Et donc, quand on propose un autre exemple à Amy, elle examine la question de la responsabilité en termes d'articulation du souci des autres et du souci qu'on doit avoir pour soi-même. Hein. Et c'est une question qu'elle pose donc à 11 ans de très nombreuses reprises. Elle dit, il y a des gens qui font passer leur propre intérêt avant de penser aux autres, il y a des gens qui prennent vraiment à cœur les intérêts d'autrui. Et donc, elle pense qu'il vaut mieux finalement, peut-être avoir une approche descriptive qu'une conception normative des caractères moraux. Et donc là, il y a un déplacement en fait de la question morale, de savoir qu'est-ce que je dois faire, hein, quel est le bon choix à tel ou tel moment, qui est une question très importante en morale, bien sûr, hein, mais qui n'est pas en fait le fonctionnement ordinaire et habituel de la morale. Hein. C'est vrai que très souvent, on se pose la question morale sous forme d'un dilemme, mais très souvent, Les questions morales sont plutôt, en fait, des questions d'attention, de savoir exactement ce qui se passe, hein, et d'essayer surtout de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, hein, de choisir ce qui est important. Et c'est ce que dit Amy, à la question donc, de savoir quelle est la priorité. Elle va dire, vous devez décider ce qui est le plus important, cette personne, cette chose, ou vous-même. Et pour décider cela, il faut faire attention, hein, donc examiner l'ensemble donc de la situation et comprendre donc ce qui se passe. Hein. Et donc là, il y a deux conceptions très différentes donc de la morale qui sont en jeu. Hein. D'une part, avec l'idée d'un côté d'une sorte de vision impartialiste hein, de la morale. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas tenir compte des circonstances et du contexte, mais appliquer des règles. Et c'est ça la définition de la justice. Et puis, de l'autre côté, conception inverse qui va dire, après tout, est-ce que l'impartialité, c'est forcément la façon la plus juste hein, même de concevoir les choses? Est-ce que parfois, il ne faut pas, en fait, porter une attention donc au cas particulier? Et donc c'est cela en fait la perspective du CAIR, c'est une perspective où on considère qu'il faut apporter à chacun donc et à chaque situation une attention particularisée. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de règles morales et générales qu'on puisse appliquer aveuglément, mais il faut à chaque fois donc faire attention aux situations et aux besoins spécifiques de la personne. Donc évidemment, là, il y a une éthique qui est fondée sur les besoins et non pas sur les règles. Elle est complètement différente. Et il est clair que, dès le départ, il y a eu beaucoup de contestations par rapport à cette éthique, hein, puisque, d'une part, donc, elle donnait l'impression qu'il y avait une éthique proprement féminine et du coup, que cette éthique pouvait contribuer aussi à la dévalorisation des femmes, puisque c'est l'éthique de la justice, de l'impartialité, qui est quand même considérée comme supérieure. Donc il y aurait une espèce de cercle vicieux qui contribue, en fin de compte, à maintenir les femmes dans un domaine où elles seraient dévalorisées. Hein. Donc là, évidemment, c'est un point qui est tout à fait, qui est évidemment problématique. Alors, là où il y a eu vraiment une réflexion sur la possibilité de rendre plus solide cette question du CAIR, hein, ce deuxième modèle éthique, cette voie éthique différente. Eh bien, c'est en essayant de montrer comment, en fait, l'attention en tant que telle, hein, l'attention à autrui, la possibilité donc de mieux percevoir les détails de la vie que nous négligeons, hein, cette façon de mieux voir hein, finalement ce qui compte, c'est quelque chose qui est beaucoup plus central en morale qu'on l'imagine. Hein. C'est vrai que les questions de CAIR concernent, je l'ai dit en commençant, mais là peut-être vous comprenez mieux pourquoi, ça concerne les choses auxquelles en fait on ne fait pas attention. Hein. C'est-à-dire que tout le domaine du CAIR, c'est le domaine dont on reconnaît l'existence que quand il n'a pas lieu, hein, c'est ce qu'on tient pour acquis. Par exemple, si vous avez toujours quelqu'un qui passe après vous pour ramasser vos affaires, ramasser vos chaussettes, etc., évidemment, vous trouvez ça complètement acquis. Hein. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais vous connaissez tous des gens comme ça. Et donc, évidemment, c'est le jour où on ne ramasse pas, effectivement, où les chaussettes ne sont pas ramassées, où le ménage n'est pas fait, que là, on arrive et on dit, mais comment là, ça se voit, hein. C'est comme on est habitué à ce que les poubelles soient ramassées tous les jours, et puis eh ben, le jour où ça n'arrive pas, là on le remarque. Hein. Donc, évidemment, là, bon, il y a là même pour qu'on ait cette conférence, il y a des gens qui sont occupés de toutes sortes de choses, qui ont installé les lampes, qui ont envoyé les invitations, qui ont installé le soin, etc. Bon, ben, on trouve ça normal. Hein. En réalité, il y a une grande quantité de soins qui est apportée à toutes les situations, et en fait, c'est vraiment en général ce qu'on ne voit pas. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on parle très souvent négligence, hein. Donc de négligence par rapport à toutes les activités de CAIR. Et c'est tout à fait important d'essayer de construire en fait un modèle moral qui prenne en compte en fait ces activités-là. Alors on n'est pas obligé de dire qu'il y a un type de morale proprement féminin, hein, ça se discute tout à fait. Moi j'ai l'impression que Carol Gilligan a vraiment très bien développé cette idée, hein, mais de fait, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est l'idée qu'il y a quand même deux approches morales différentes et que chacun doit essayer en fait d'être sensible, donc d'être sensible aux deux. Hein. D'ailleurs, Carol Gilligan a continué ses enquêtes et a montré que finalement il y avait aussi beaucoup d'hommes qui avaient cette orientation morale. Heureusement, il y a aussi bien sûr donc des femmes qui ne l'ont pas, heureusement en un sens, et donc il y a là en fait toute une approche morale qui constitue une véritable alternative en fait au rationalisme moral qui domine dans la réflexion qu'il y a en philosophie morale et aussi dans la pensée politique, hein, puisqu'il y a eu toute une opposition entre, j'en parlerai pas parce que là je vais vraiment pas avoir le temps, mais il y a toute une opposition entre la théorie de la justice de Rawls, hein, d'un côté, et puis donc ces contestations qu'il y a eu de la justice à partir donc de cette approche morale fondée non seulement donc sur les formes de sensibilité, mais aussi donc l'idée de l'observation d'autrui et de l'attention, donc de l'attention à autrui, avec l'idée que c'est peut-être simplement l'attention aux situations et la perception réelle des choses qui constituent donc un point de vue moral. Hein. Donc ça, je crois que c'est un point vraiment permet de mieux comprendre en fait l'intérêt de l'éthique du care si on le place du point de vue de l'attention comme revendication morale en tant que telle et donc comme une véritable restructuration, hein, ce que Carol Gilligan, c'est vraiment une restructuration de la perception morale. Donc c'est une façon de voir les choses autrement et d'essayer de ne pas toujours valoriser les mêmes choses en morale. C'est vrai qu'on va valoriser, hein, par exemple dans le monde universitaire, hein, justement, on va valoriser par exemple l'impartialité, le fait de traiter tout le monde de la même façon, et on valorise ça pour de très bonnes raisons, mais aussi donc pour pas forcément toujours pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que c'est une façon aussi de ne pas tenir compte des situations particulières. On valorise beaucoup l'autonomie, hein, chaque fois que on parle par exemple des populations vulnérables, choses comme ça, on va dire bon, il faut accéder à l'autonomie c'est bien, la première vague du féminisme était une revendication d'autonomie. Eh bien, avec la réflexion sur le care, on s'aperçoit que la question de l'autonomie n'est peut-être pas aussi claire que cela, et que, en particulier, on est tous en fait dépendants. Hein. C'est-à-dire qu'il faut peut-être reconnaître que l'on dépend beaucoup de choses avant de revendiquer toujours l'autonomie comme quelque chose de positif. Hein. Alors évidemment, chacun connaît les aspects positifs. Hein. D'une forme d'autonomie, hein, c'est pas du tout pour dire le contraire, mais il est évident que les personnes les plus autonomes apparemment, les personnes qui peuvent le plus apparaître comme autonomes ou puissantes, sont les personnes qui en réalité dépendent d'énormément d'autres personnes. Hein. Donc les personnes les plus autonomes sont en fait les plus dépendantes parce qu'elles ont très souvent beaucoup de gens à leur service. Donc c'est extrêmement paradoxal en fait que ce concept de l'autonomie et le voir de façon positive seulement, c'est peut-être quelque chose qui est un peu illusoire. Donc tout ça, c'est vraiment en fait des façons de reprendre les choses de façon nouvelle, hein, de façon à faire attention à donc des réalités négligées et des réalités sociales qui sont d'une certaine façon invisibilisé, on va dire. Hein. C'est vraiment des choses qui n'apparaissent pas et donc qui pourraient apparaître peut-être un petit peu plus. Alors, donc, il y a eu justement un certain nombre de critiques qui ont été formulées à l'égard de Carole Illégane, hein, je voudrais les mentionner maintenant pour vous faire comprendre pourquoi on peut passer de cette conception morale à une conception politique. Hein. Mais ça n'est pas justement en disant juste, voilà, le CAIR c'est bien, il faut être gentil, etc. Parce que, de fait, le problème est beaucoup plus compliqué puisqu'il s'agit de comprendre pourquoi donc un certain type d'activité est dévalorisé parce que justement c'est un certain type d'activité qui a longtemps, enfin depuis toujours même historiquement, était plutôt réservé aux femmes. Hein. Alors évidemment il y a des hommes qui partagent ces activités. Hein. Alors si on prend les activités par exemple de soins aux personnes, hein, évidemment il y a aussi des voilà, ne sont pas uniquement féminines, mais il est clair que comment dire, leur féminisation est quelque chose quand même, un élément très important, et en général, qu'un homme, pour un homme, c'est considéré parfois comme un peu glorieux en fait, d'avoir ces activités. Donc c'est quand même quelque chose qui est, voilà, qui est sexué, hein. C'est-à-dire que même si on est contre l'idée qu'il y aurait une éthique féminine, une éthique masculine. Par contre, il y a, bon, ça c'est un débat qui est un peu théorique, hein, évidemment, mais au plan purement pratique, hein, réel, de fait, il y a tout un champ d'activité qui est historiquement, premièrement, dévolu aux femmes et deuxièmement, considéré comme pas important. Donc on pourrait quand même se poser la question, d'autant plus que, maintenant, on est dans une situation historique et c'est peut-être pour cela que la question du CAIR devient assez, assez brûlante, même si c'est précisément la chose qui n'a pas été tellement évoquée. C'est-à-dire que depuis quelques années, au plan mondial, c'est vrai qu'il y a une circulation du CAIR qui est devenue un phénomène absolument massif et que pour la première fois, l'émigration. Donc, des femmes ont dépassé en fait celle des hommes, hein, puisqu'il y a évidemment tout ce mouvement et ce travail donc des femmes des pays du Sud ou de l'Asie, etc., qui viennent donc s'occuper justement donc soit des enfants, soit des personnes âgées dans les pays occidentaux. Alors là, évidemment, c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant, hein, à penser dans le cadre de la réflexion sur le CAIR. Mais ça, par contre, ça n'est pas, voilà, ça n'est pas quelque chose qui a été évoqué, donc évoqué dans le débat politique, un peu moraliste sur le CAIR. C'est cette situation où, de fait, donc il y a une sorte de crise du CAIR dans les pays bon riches, hein, bon, des gens comme nous qui souvent peuvent quand même en gros, éviter un certain nombre de tâches de care, mais en les déléguant à d'autres personnes. Donc ça, c'est évidemment un point qui est très important, puisque c'est ça aussi qui a été l'apport de Carole Gilligan et de la seconde vague du féminisme, hein, c'est se dire, après tout, il y a aussi des inégalités très grandes entre femmes, et il y a des femmes qui sont au service d'autres femmes. Donc, et peut-être que l'autonomisation de certaines femmes s'est faite, évidemment, enfin, au détriment d'autres qui ont pris en charge les tâches dont elles-mêmes ont été libérées. Et là, c'est vraiment un problème, si on le prend dans sa globalité, hein, justement, il y a un ouvrage d'une spécialiste d'éthique du CAIR qui s'appelle Global Woman, et qui est vraiment sur la circulation des nannies, des bonnes, etc., dans le monde entier. C'est vrai que c'est un problème qui est tout à fait intéressant si on s'interroge justement sur le sens de l'autonomisation de beaucoup de femmes, hein, c'est que donc beaucoup de femmes et d'hommes aussi se sont libérés des tâches de care en les déléguant donc à des personnes des pays pauvres. Pendant ce temps, bien entendu, ces pays eux-mêmes, par exemple, manquent de médecins et manque de personnel pour prendre soin des personnes chez eux. Hein. Donc là, il y a évidemment un problème qui est tout à fait crucial aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on peut justement citer le travail qu'a fait John Tronto. Alors là, je n'ai pas apporté son livre, hein, c'est Tronto, un livre assez récent qui est sorti, qui s'appelle Un monde vulnérable, et qui est reparti de l'éthique d'Illegal, mais en disant que finalement, l'image du care, disons dyadique, hein, face à face de la personne qui s'occupe d'une autre, était trop étroite pour donner à penser l'ensemble des activités sociales relevant du soin attentif des autres. Et donc, elle considère que la mise en valeur philosophique du care doit moins s'alimenter à une éthique de l'attention, hein, comme je l'ai présenté tout à l'heure, qu'à une sorte d'élargissement donc du concept d'action. Et donc, ce qu'elle affirme, c'est qu'il faudrait peut-être renoncer à une partie de l'éthique du care, c'est-à-dire à l'idée d'une morale qui serait proprement féminine, et enfin une sorte d'anthropologie sexuée avec les hommes, les femmes, voilà, avec des morales différentes, mais plutôt avoir une sorte de réflexion globale sur ce que c'est que le care et la dignité sociale du care, c'est-à-dire l'idée globale donc de pourvoir à nos besoins, hein, donc d'avoir, comme elle le dit, une anthropologie de la vulnérabilité qui reconnaîtrait simplement que tout le monde est vulnérable et qu'il n'y a pas besoin en fait de la dimension féministe de la réflexion sur le care. Alors John Tronto, je vous en parle un peu plus parce que c'est elle en fait qui a été citée par Martine Aubry. Hein. Cette version-là, ça plaît beaucoup plus. Hein. Vous avez remarqué quand on parle de care, on laisse, en tout cas au PS, on laisse vraiment de côté l'origine féministe de la chose. C'est vrai que ça complique un petit peu. Et donc, ce que dit Tronto, c'est très intéressant hein, par ailleurs, c'est de dire que seul le passage de l'éthique aux politiques permet de donner leur puissance critique aux éthiques du care, et donc il faut appeler à une société où surtout les care, ce qu'on appelle les caregivers, hein, les personnes qui s'occupent du soin, donc auraient leur voix et leur pertinence, et où les tâches de care ne seraient pas structurellement invisibles ou discrètes. Hein. Et donc, je vous cite un passage de Tronto parce qu'elle dit ça très bien, je pense que vous comprendrez mieux, hein, parce qu'elle dit qu'il faut non seulement une affirmation éthique de l'importance et de la dignité du care, mais aussi une réflexion politique portant sur l'allocation des ressources et de la répartition sociale des tâches qu'il définit. Donc là, on est plus directement dans le champ politique. Et elle dit, donc c'est toujours dans son livre Un monde vulnérable, comme type d'activité, le care exige une disposition morale et un type de conduite morale. Nous pouvons exprimer quelques-unes de ces qualités sous la forme d'un principe universaliste tel que vous devez prendre soin de ceux qui vous entourent ou de ceux qui appartiennent à votre société. Cependant, pour que ces qualités s'incorporent à la conduite morale, il faut que l'on s'engage dans des pratiques privées aussi bien que publiques qui visent à les enseigner, à renforcer la sensibilité à la valeur des intérêts moraux dont elles sont porteuses. Donc, pour qu'elles soient créées et poursuivies, une éthique du care s'appuie ainsi sur l'impératif politique qui consiste à conférer une valeur au care et à reconfigurer les institutions en fonction de cette valorisation. Donc, ce que dit Tronto qui est intéressant, c'est qu'il ne suffit pas en fait de promouvoir une éthique du care, de dire c'est important de faire attention à autrui, c'est une dimension de la morale qui est centrale. Mais en réalité, ça ne sert à rien si on n'intègre pas en fait ces idées et donc les pratiques liées au care dans un agenda de la réflexion politique. Hein. Et donc, si on ne considère pas des moyens concrets de valoriser en fait vraiment les personnes concernées, c'est-à-dire les donneurs de soins, les caregivers, comme on dit en anglais, mais on peut le dire aussi en français, et donc les receveurs de soins. Hein. Et donc, pour elle, il n'y a pas d'éthique du care s'il n'y a pas une politique du care. Et de ce fait, il y a là vraiment peut-être l'émergence d'une réflexion qui serait plus directement politique et qui se détacherait de l'éthique. Mais il me semble, à moi, que d'une certaine façon, ce que Carole Gilligan a montré donc de la spécificité de l'éthique du care, reste tout à fait centrale, hein, puisque de fait, ces éthiques, hein, cette philosophie morale qui est dominante, hein, qui est dominante en philosophie qui est dominante aussi dans la pensée politique, est vraiment, en fait, le produit, l'expression d'une pratique sociale qui va dévaloriser l'attitude et le travail de cœur ensemble. Hein. Donc, finalement, c'est très difficile de séparer complètement, selon moi, donc l'éthique et le politique. Cependant, il me semble donc que ce qu'elle montre très bien, c'est que si on veut donner un contenu à l'éthique du cœur, eh bien, il faut quand même y penser en termes de transformation sociale. Et je crois que c'est cela l'intérêt de l'éthique du cœur, c'est qu'elle donne en fait à des questions très concrètes, très ordinaires, hein, qui sont finalement qui s'occupe de quoi et comment, qui s'est occupé de telle ou telle chose. Hein. Vous vous rappelez quand il y a eu la campagne présidentielle, il y avait quelqu'un qui avait dit à propos d'une candidate, mais qui va s'occuper, qui s'occupe des enfants, hein, alors, qui va s'occuper des enfants, ça. Et en fait, bon, déjà la question elle-même était assez stupide, mais le fait que tout le monde ait dit, mais comment peut-on poser cette question est aussi révélateur, parce que de fait, il y a bien quelqu'un quand même qui s'occupe des enfants. Donc le fait que, voilà, qu'on considère que c'est une question négligeable, eh bien, ça montre bien qu'il faut peut-être transformer son regard sur ces questions et surtout leur donner vraiment la force et la pertinence nécessaires pour examiner de façon critique nos propres jugements politiques et moraux. Donc moi, je pense que c'est ça l'intérêt en fait de l'éthique du cœur, c'est que ça permet de faire attention à des choses de façon nouvelle. Je vais essayer d'illustrer ça. Ça sera pratiquement pour terminer avec un petit film qui pose pas mal de questions sur le cœur selon moi, mais vous me direz ce que vous en pensez. Il fait partie d'un ensemble. En fait, c'est un film à multi-auteurs, dont les autres ne parlent pas du tout de ces questions-là. C'est un film sur Paris, hein, qui s'appelle Paris, je t'aime. Donc, je pense que certains d'entre vous l'ont vu parce qu'il a plutôt bien marché. Alors, je trouve que c'est un très beau petit film qui est réalisé. D'ailleurs, vous le voyez là, sur l'écran, peut-être par Walter Salles, qui est un metteur en scène, donc, brésilien. Et puis, surtout, ça met bien en évidence un certain nombre de problèmes liés à cette idée de cœur. Alors évidemment avec l'idée assez immédiate de ce que c'est que le cœur, hein, de ce que c'est par exemple, hein, de s'occuper d'un enfant de la situation évidemment des gens. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les questions morales, on se dit toujours qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qui est gentil, qui est méchant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on place juste une situation devant vous, hein, et c'est à vous, en fait, de voir ce qui vous y intéresse. Et d'ailleurs, les gens la voient souvent de façon assez divergente, donc c'est assez intéressant. Une fois, j'avais présenté ce film, et il y avait un médecin, je crois, qui disait, moi, ce que je vois dans cette scène, c'est un enfant qui est heureux. C'est ça, cette histoire. Bon, en tout cas... Ce que je voulais mettre en évidence là, c'est le fait que ce qui est important, c'est justement de faire attention à des petits détails et de voir, de faire attention à la situation. Hein. C'est pas la question du jugement moral qui est intéressante, même si on peut en porter un, même si on peut trouver l'employeuse là dont on n'entend que la voix et qui dit juste je vais être en retard, bon alors visiblement ça a des conséquences assez catastrophiques pour son employé, enfin qu'elle est un peu négligente, hein. On peut tout à fait réagir de cette façon, mais on peut aussi se demander dans ce cas-là pourquoi on réagit comme ça et qu'on se demande pas pourquoi le père n'est pas là, etc. Donc il y a toutes sortes d'interrogations morales que l'on peut avoir, mais de fait, la question morale, elle est plutôt dans l'attention qu'on peut avoir à la situation qui est décrite là, celle de cette femme, celle de l'autre femme, des deux enfants, et c'est ça qui est important. Alors, ce que demande l'éthique du cœur, finalement, c'est simplement qu'on considère que quelque chose comme ça, une description comme celle qu'on vient d'avoir, c'est quelque chose qui a un contenu moral, même s'il n'y a pas de jugement morale, même si ça vous, il n'y a pas de connaissance morale et que ça ne ressemble pas à ce qu'on appelle la morale, et bien malgré tout, c'est quelque chose qui a une pertinence du côté de l'éthique. Et cette pertinence, elle ne va pas se trouver forcément dans une thèse, mais juste dans des détails. Hein, si on, quand on voit le film avec attention, évidemment, on voit vraiment la, quelle est la situation des gens qui, justement, sont des caregivers. Hein. Par exemple, le fait de passer par l'entrée de service dans un beau quartier, d'être, voilà, de ne pas être spécialement salué par, la, par l'employeur, enfin, tout cet ensemble de choses, c'est en effet quelque chose qui est très bien montré, hein. Il me semble, donc, dans ce film, et il me semble que ça permet peut-être de voir plus concrètement en fait pourquoi la notion de care, eh bien c'est une notion qui nécessite vraiment qu'on y réfléchisse aujourd'hui et qui nous concerne tous tous de près, pas seulement par les situations concrètes, mais aussi par un certain type nouveau d'attention que l'on peut avoir pour des réalités qui jusqu'alors étaient un petit peu, si j'ose dire, balayées à l'écart. Voilà, je m'arrête là et donc si vous avez des questions, merci beaucoup. Bon, on peut laisser là. Dire que ça n'a rien à voir puisque tout le débat s'est un peu focalisé sur, disons, la conception de la justice comme impartialité, etc. Oui. Et puis le care. Le problème, c'est que ça a été une focalisation qui a beaucoup nuit à l'éthique du care,
oui.
Puisque d'une part, pourquoi est-ce que on s'intéresse au care? C'est aussi parce qu'on s'intéresse à la justice, parce qu'on considère qu'il n'y a pas assez de justice. Donc, dire qu'on est contre la justice, hein, ou dire que l'éthique du care s'oppose à la justice, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, parce que tout le monde aime la justice, hein, alors que tout le monde n'aime pas le care, et donc c'était une opposition trop radicale, et c'est pour cela qu'il y a, il y a une féministe spécialiste du care, Annette Bayer, qui a écrit un article qui s'appelle « Le besoin pour plus que de la justice ». Donc le care, c'est pas l'anti-justice, mais c'est plus que de la justice, parce que l'impartialité peut aussi rendre injuste, hein, le manque d'attention à autrui et aux proches peut, d'une certaine façon, aussi produire de l'injustice. C'est pas le cas, bon, c'est pas une raison, hein, pour pas les rapprocher, mais c'est vrai que ça vient plutôt de tout le vocabulaire, plutôt de la souffrance en fait, plutôt que celui de la charité. Et je crois qu'il y a vraiment une opposition très fondamentale, hein, et c'est bien pour ça qu'on insiste sur l'origine féministe et chez Gilligan du care. Et c'est pas du tout une origine chrétienne, hein, même si ça n'aurait rien de déshonorant, parce que de fait, c'est pas du tout la charité, puisque l'éthique du care est vraiment une revendication aussi d'égalité, hein, entre la personne qui voilà, qui prend soin et celle qui le reçoit. Hein. Donc il y a vraiment pas du tout cette asymétrie qu'il y a dans la charité et qu'il y a aussi dans la notion de soin. Parfois, c'est bien pour ça qu'on voilà que la traduction par soin n'est pas satisfaisante, hein, puisqu'il s'agit vraiment plutôt de valoriser un certain quelque chose qui ne l'était pas. Donc, de fait, je pense que si on parle de façon très générale, hein, effectivement, du care comme une sorte de valeur un peu abstraite, comme c'est le cas dans ce discours du PS que vous mentionniez là, bien sûr que là, ça peut paraître proche de la charité, parce que ça reste un principe très abstrait, mais si on se demande vraiment ce que c'est, hein, c'est-à-dire que ce que j'ai essayé de montrer un peu concrètement, hein, la diversité des activités liées au care et tout ce domaine-là, je pense que là, c'est plus du tout du domaine de la carité. C'est-à-dire que là, vous me faites une objection qui, effectivement, pourrait porter peut-être avant que les explications que j'ai données, j'espère, hein, parce que, de fait, il me semble que l'intérêt de comprendre vraiment ce que c'est que l'éthique du care, c'est de sortir de ce modèle-là, de bien voir l'originalité de la chose. Effectivement, je regrette de ne pas avoir pu développer un peu plus tout ça. Il est tout à fait exact que la position d'Iligan, elle reste quand même très très contestée et assez minoritaire, hein. Les éthiques du Caire, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit. Alors de divers côtés, c'est sûr que la première fois avant Aubry, la première fois que j'ai vu qu'on parlait de nos travaux sur le Caire, c'était dans le livre d'Elisabeth Badinter. Ça dit, pour ma part, je considère absolument pas Elisabeth Badinter comme une féministe. Pour moi, c'est plutôt une anti, quelqu'un qui surfe sur l'antiféminisme rampant qu'il y a en France. Donc c'est vrai que c'est pas, je la mettrai pas dans cette catégorie. Cela dit, c'est vrai qu'elle a vraiment en fait présenté de façon assez honnête les théories du Caire, et elle a plutôt critiqué une application caricaturale qui en aurait, dans la mesure où c'est vrai que Carole Gilligan ne va pas du tout, elle, se lancer dans une espèce de prescription maternaliste et comment dire, de glorification de la féminité en tant que telle, hein, pas du tout. Hein, c'est vraiment une étude critique, hein, c'est vraiment un travail critique au sens où on emploierait ce terme en France, quoi, et c'est vraiment sur l'analyse d'un certain type de discours. Donc il n'y a pas du tout cet aspect que critique Elisabeth Badinter de glorification de la femme. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques, hein, vous avez raison de le rappeler, sur l'éthique du Caire, et notamment l'idée que si on valorisait une voie ou une morale comme proprement féminine, eh bien on maintenait les femmes finalement à l'écart du discours rationnel dominant, mais c'était quand même une façon de les minoriser, et c'est vrai que c'est vraiment un problème. Alors là-dessus, Carole Gilligan a beaucoup travaillé, beaucoup évolué, elle a travaillé aussi sur les adolescents, maintenant elle travaille aussi sur l'homosexualité, etc., dans son dernier livre. Et c'est vrai qu'elle a vraiment essayé de dire que finalement, Caire et justice, c'était pas deux choses rivales, mais deux orientations différentes et un point de vue qu'on pouvait avoir sur la même chose, comme elle utilise l'analogie du canard-lapin, hein, comme c'est la chose que vous pouvez voir une situation du point de vue de la justice et du point de vue du Caire. Ces deux regards différents, et en fait, chacun est capable de les avoir. Hein. Là, vraiment, dans le texte, son dernier texte qui est publié là-dedans, en fait, dans le volume sur Gilligan et l'éthique du Caire, elle a vraiment essayé, comme elle dit, de dégenrer le Caire et de dire donc le Caire, ce n'est pas des questions de femmes, ce sont donc des préoccupations humaine, hein, et donc le caractère genré du débat, il est apporté de l'extérieur par ceux qui veulent justement écarter les femmes de la vraie morale. Alors elle a des pages sur Barack Obama aussi qui sont assez intéressantes, puisqu'évidemment pour elle c'est tout à fait central en fait dans la reconnaissance à la fois du cœur, mais aussi la reconnaissance d'une place pour les femmes. Ça c'est le deuxième point sur la critique. Et puis il y a eu toutes sortes de critiques extrêmement fortes aussi qui sont venues également de ce qu'on a appelé ce qu'on appelle la question du dark care, hein, c'est-à-dire en fait aussi il y a eu des critiques venues des féministes noires américaines qui pensaient que c'était en fait la promotion de la morale de la femme blanche, hétérosexuelle, bourgeoise. Et donc, évidemment, c'était quand même quelque chose qui contribuait en fait à non seulement à rejeter les femmes noires dans un domaine social inférieur, mais également comme si elles n'étaient pas vraiment des femmes aussi. Hein. Donc là, il y a eu tout un débat. Mais en même temps, c'est des débats qui sont extrêmement, extrêmement riches. Hein, et on a beau trouver que c'est hein, parfois que c'est un peu trop spécifique au débat anglo-saxon, comme vous disiez. Je pense que c'est des débats qu'on n'a pas suffisamment. Hein. On peut tout à fait critiquer tel ou tel point, mais je trouve que c'est un domaine très riche, hein, qui fait apparaître beaucoup de choses. Alors ça, c'est pour la première point. Et puis pour ce qui est de la politique de proximité et tout ça, c'est vrai que C'est un discours qu'on a entendu pas mal, hein, évidemment. Il y a eu aussi tout le discours de Boltanski sur la souffrance à distance, la politique du proche, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend depuis pas mal de temps. Et je pense que ça serait vraiment important de distinguer l'éthique du care du discours sur la proximité. Hein, ça, c'est vrai. Je pense que là, il y a pas mal de sociologues, notamment Patricia Paperman, qui travaille là-dessus et qui s'y emploie, parce que c'est vrai que si l'éthique du care consiste à dire que finalement, ce qui compte, c'est les proches, c'est la famille, etc., tout le monde peut crever, parce que c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais vu une fois ce film tout récent qui s'appelle 2012, hein. C'est assez frappant, parce que ça semblait une illustration assez horrible de l'éthique du care, où en gros, il y avait une famille à laquelle on s'attachait, qu'on suivait pendant tout le film. Et pendant ce temps, donc, toute l'humanité disparaissait. C'est une espèce de catastrophe. Donc, des millions de gens meurent. Mais la seule chose qui préoccupe le petit groupe, c'est le père de préserver sa famille, ses proches, ses amis. Puis à la fin, on est content parce qu'il reste plus qu'eux, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est très frappant de voir ça même présenté à l'écran, hein, dans un film. Et de fait, donc la question de la proximité, elle est centrale et elle est réaliste, au sens où de fait, chacun se préoccupe plus. Je veux dire, c'est aussi ce que l'éthique du care, c'est juste montrer les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'on se préoccupera plus d'un proche et que même on critiquera quelqu'un qui, par exemple, fait des dons généreux pour des associations caritatives et laisse crever de faim ses enfants. On serait choqué, quoi, en fait. Bon. Pourquoi d'ailleurs, d'un point de vue impartial, pourquoi? Mais voilà, donc cette question de la proximité, elle n'est pas si évidente. En fait, c'est vrai qu'on peut se dire c'est le népotisme, les relations, etc. Mais ce n'est pas si évident de rejeter ça. J'ai souvent vu ça, par exemple, là aussi c'est très intéressant de voir ça dans le discours dans les universités, hein, quand il s'agit... par exemple, tout le discours très, très bien pensant de collègues qui vont dire « Attention, il faut être absolument impartial, surtout pas tenir compte du fait que quelqu'un ait rendu des services, accompli des tâches, parce que c'est ça l'impartialité, etc. » Et bien sûr, on est tous d'accord avec ça, hein, quand il s'agit de recruter quelqu'un. En même temps, que signifie ce discours? Il signifie que finalement, les tâches de care, hein, tout un ensemble de tâches qui font tenir les choses ensemble, sont effectivement... négligeable par rapport à des tâches intellectuelles élevées. C'est-à-dire qu'on vit, en fait, constamment sur une sorte de hiérarchie des tâches, y compris quand on dénonce des formes de proximité. Et donc, je ne dis pas du tout que c'est bien de se baser sur la proximité, je dis juste que finalement, les choses sont quand même toujours plus compliquées et nos motivations pour critiquer certaines choses sont plus compliquées. Donc, ça qui est intéressant avec le care, c'est que ça conduit toujours à nous interroger sur pourquoi on pense telle ou telle chose, pourquoi on a telle ou telle réaction, il me semble. Je ne sais pas si... Voilà. Ce qui est très important, c'est en effet d'élargir le domaine du care et de montrer qu'il y a, comme vous le dites, et ça ne serait pas reconnu par tous les acteurs, hein, de ces domaines, mais de fait, on peut considérer que beaucoup de tâches comme, en effet, la justice, l'enseignement, relèvent d'une certaine façon du care. Et, alors, évidemment, certains pourraient se sentir... offensés par cela, et on pourrait se demander, là encore, pourquoi. Mais de fait, il y a une dimension de care dans toute activité qui contribue tout simplement à la préservation, à la conservation du monde et à son fonctionnement. Et c'est vraiment cela qui est très souvent invisibilisé. Donc là-dessus, vous avez tout à fait raison. Et de fait, le problème, c'est pas de choisir entre care et justice. Hein. De fait, c'est vrai que lorsque donc on se fonde uniquement sur la justice en termes d'impartialité, de fait, c'est quelque chose que Carl Gilligan a dit dans un de ses articles récents, et je trouve que c'est bien dit. Il a dit finalement, si on se fonde uniquement sur la justice, eh bien on va confondre finalement sa propre perspective, hein, avec un point de vue objectif. Hein. C'est-à-dire que finalement, la personne qui s'exprime uniquement en termes de justice se fonde sur son propre jugement pour le généraliser, l'appliquer à tout le monde. Donc d'une certaine façon, elle est égocentrique, hein, elle est beaucoup plus individualiste qu'on l'imagine. Et de même, si on se fonde entièrement sur le care, c'est vrai que on va se définir aussi entièrement comme dévoué, dévoué à autrui. On se détermine uniquement dans les termes des autres. Donc, c'est pas non plus vraiment de l'individualisme. Vous voyez, vous pouvez pas dire d'un côté il y a un point de vue ultra individuel, particulariste, et de l'autre un point de vue général, parce que de fait, ça n'est pas le souci des autres, ça n'est pas quand même de l'individualisme, hein, c'est peut-être du proche, mais il me semble que là, il faut en effet arriver à combiner les deux points de vue et arriver. Donc, alors pas avoir un mélange de justice et de sensibilité, mais plutôt dire que l'attention à autrui, la sensibilité morale sont en fait des conditions de la justice. Hein. Je crois que c'est ça en fait qu'il faudrait arriver à construire dans chaque situation.